Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Le procès des leaders de la société civile et des deux journalistes Lukman Sawadogo et Alain Alain s'est ouvert ce matin devant le tribunal de grande instance Ouaga 1. Le dossier est retenu pour être jugé. À la une également, l'effondrement d'un immeuble à Ouagadougou. Les faits se sont produits dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Selon des témoins, il y aurait au moins 2 morts et 2 blessés. En sport, nous ferons le bilan des footballeurs burkinabés dans les 5 championnats d'Europe. Et situation au Sénégal, on en parle avec notre invité du jour, Lamine Diouf. Il est journaliste et analyste politique au quotidien Enquête à Dakar. Même s'il reconnaît qu'il y a une accalmie ces derniers jours après la condamnation d'Ousmane Sonko, il faut craindre que le pays ne s'enflamme encore si l'opposant venait à être arrêté. Initialement annoncé pour le 3 juin dernier, c'est finalement ce mercredi 7 juin que le dossier Lukman Sawadogo et Alain Alain et des auteurs de la société civile poursuivis dans l'affaire des audios sur les supposés appels aux actes de vandalisme sur le palais du Mogonaba s'est ouvert. Le juge a décidé, à la suite de débats entre le procureur et les conseils des accusés, de retenir le dossier pour être jugé ce mercredi. Plus de précision avec Ibrahim Niaouné.
À la présentation des accusés, 9 personnes parmi lesquelles Marcel Tankwano, Abdulkarim Baguian Di Lota, Désiré Ginko, Pascal Zaïda, Boukari Konombo et les 2 journalistes Lukman Sawadogo et Alain Alain se sont dressés devant les juges. Un 10e inculpé en liberté ne s'est pas présenté à l'audience. C'est à l'issue des discussions entre les avocats de la défense et le procureur que le juge a décidé de retenir le dossier. Les 9 accusés présentés au juge ce mercredi matin sont tous sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Les leaders de la société civile et les journalistes ont été inculpés dans le dossier désormais dénommé Marcel Tankwano et autres, du supposé incendie du palais du Mogonaba, roi des Mossé, à travers des audios. 3 charges pèsent sur l'ensemble du groupe. Il s'agit de l'incitation à attroupement, de la mise en danger de la vie d'autrui et de la complicité par non-dénonciation des délits. Les 2 journalistes, Alain Alain et Lukman Sawadogo, sont inculpés pour complicité.
Et je vous l'annonçais en titre, effondrement d'un immeuble à Ouagadougou dans la nuit de mardi à mercredi. Selon un constat fait par une équipe d'Omega Media, l'incident s'est produit dans la zone Zaka sur l'avenue Yenenga. Le sinistre, selon les riverains, a fait 2 morts et 2 blessés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le secrétariat exécutif de la politique nationale de développement a tenu hier mardi à Ouagadougou la revue annuelle de la politique nationale de développement. L'activité a réuni des membres du gouvernement de transition avec à leur tête le Premier ministre, les gouverneurs de région et les représentants de la société civile et du secteur privé. Cette session de l'année avait pour thème « Quel bilan de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement en 2022 ?» Plus de précisions avec Solomon Nikema.
Le plan d'action pour la stabilisation et le développement se base sur 4 piliers. Le premier pilier consacré au terrorisme et le taux d'exécution est de 59% en 2022. En ce qui concerne la réponse efficace à la crise humanitaire qui est le 2e pilier, le taux d'exécution est d'environ 80%. La refondation du 3e pilier enregistre 62%. Et le pilier 4, axé sur la réconciliation nationale, note 61% en 2022. Aboubacar Nakanabo, ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective.
Nous avons examiné les résultats engrangés en 2022. Il ressort qu'il y a eu beaucoup de performances qui ont été réalisées, mais il y a encore des points sur lesquels il faut travailler davantage. Nous sommes à 63% de réalisation, ce qui est appréciable, mais qui montre aussi qu'on peut encore faire mieux dans tous les domaines.
Aboubacar Nakanabo affirme que des actions seront également menées pour cette année 2023 en lien avec les quatre piliers du plan d'action pour la stabilisation et le développement.
Alors, en 2023, il y a beaucoup d'actions qui vont être mises en œuvre en fonction des piliers. Sur la question de la sécurité, vous avez vu qu'il y a eu la réorganisation de l'armée pour un meilleur maillage du territoire, ce qui va permettre de faire face à la crise sécuritaire. Sur le plan de l'action humanitaire, des réalisations à venir, c'est renforcer davantage les appuis au niveau des personnes déplacées internes. Pour la gouvernance, vous avez vu que nous avons engagé beaucoup de chantiers de dématérialisation des procédures. Nous sommes convaincus que la dématérialisation est une réponse adéquate à tout ce qu'on a comme problème de gouvernance.
Les représentants de la société civile, des gouverneurs, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé ont félicité le gouvernement pour les résultats engrangés sur le terrain. Ils ont par ailleurs formulé des recommandations pour l'amélioration du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023.
Les cadres de l'administration publique renforcent leurs capacités sur le travail gouvernemental et l'élaboration de textes de loi, une initiative du gouvernement à travers son secrétariat général qui vise à pallier les insuffisances constatées dans les rapports transmis à l'exécutif pour examen. Ce cadre d'échange deuxième du genre se tient du 6 au 8 juin dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Abdulaziz Oulabou pour le compte-rendu.
Les documents destinés au Conseil des ministres pour adoption doivent suivre un processus et respecter des normes de rédaction. La grande mobilité du personnel au sein des départements ministériels et des institutions commande donc un renforcement des capacités des nouveaux acteurs. Jacques Dengara, secrétaire général du gouvernement.
Les décisions du Conseil des ministres ne doivent pas souffrir de difficultés d'application. Et vous savez que quand le document n'est pas techniquement bien préparé, il y va de soi que la décision aussi qui va être prise soit une décision qui n'est pas entourée de toute la légalité et de tout ce qui est légitimité. C'est pour ça que nous pensons que c'est important que les techniciens puissent donc échanger, puissent partager leur expérience pour que les documents soient bien élaborés pour faciliter le travail du Conseil des ministres.
En plus des modules sur le travail gouvernemental, il est introduit cette année des communications sur le management et la gestion sécuritaire. Jacques Dengara.
L'Agence nationale du renseignement va s'entretenir donc avec ses cadres de l'administration sur la question de la gestion sécuritaire. Vous avez un autre thème donc qui s'est ajouté sur le management. Ce sont des responsables et aujourd'hui nous avons tous besoin donc de savoir comment manager donc nos équipes. Et ce sont de nouveaux thèmes qui n'étaient pas donc à la session de l'année passée.
Il sera également présenté à ses cadres les objectifs de la transition et les moyens qui sont mis en œuvre pour y parvenir.
Et il s'est ouvert hier à Ouagadougou la première session ordinaire de l'année 2023 du Conseil économique et social. Jusqu'au 3 juillet prochain, les 90 conseillers vont réfléchir autour du thème « Impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvo-pastoral au Burkina Faso, état des lieux et stratégie de résilience ». Suivez le compte-rendu de Judith Traoré.
Au Burkina Faso, le secteur agro-silvo-pastoral emploie plus de 80% de la population active, contribue à la sécurité alimentaire et fournit près de 45% des revenus des ménages agricoles. Hélas, l'insécurité et ses corollaires impactent durement l'économie et ce secteur, selon le président du Conseil économique et social Bonaventure Ouedraogo.
Elle a entraîné l'abandon de plusieurs terres cultivables et des espaces de pâturage. Entre 2017 et 2022, la perte des superficies cultivées liées au terrorisme est estimée à plus de 50% dans les régions du Sahel et du centre-nord et légèrement moins dans les régions de la boucle du Moun, du centre-est et de l'est. L'occupation des forêts par les groupes terroristes a entraîné des conséquences sur la préservation et l'exploitation des produits forestiers lieux et non lieux. La destruction des ports forestiers, des campements, la recrudescence du braconnage et l'arrêt des activités de chasse constituent entre autres les effets induits de cette situation. L'insécurité a également engendré une baisse d'activité et parfois même la fermeture de certaines unités de transformation, des restrictions sur les transports de marchandises, la fréquentation des marchés et l'écoulement des produits.
Soucieux d'apporter des réponses à cette situation, le Conseil économique et social a donc décidé, au titre de sa première session ordinaire de l'année 2023, de mener la réflexion autour du thème « Impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvo-pastoral au Burkina Faso, état des lieux et stratégie de résilience ». Au cours de ces 28 jours de travaux, les échanges vont tourner autour de trois grands axes.
Quelle est la situation du secteur agro-sylvopastoral? Quel est l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-sylvopastoral et quelle stratégie adopter pour renforcer la résilience du secteur?
Les résultats de ces travaux seront livrés dans 4 semaines.
Un mot de l'actualité internationale et direction le Sénégal où la connexion Internet des données mobiles est rétablie sans distinction de plage horaire dans le pays, a déclaré hier mardi le ministère sénégalais de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Dans le communiqué, le ministère précise que les opérateurs de téléphonie ont été requis aux fins de mettre en œuvre la mesure. L'État avait entrepris une suspension de la connexion Internet par données mobiles pendant plusieurs heures de la journée depuis dimanche en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs par certains usagers. Il avait pris cette mesure 2 jours après l'éclatement des violences à l'origine de la mort de 16 personnes, de plusieurs blessés et qui ont fait d'importants dégâts matériels. Il en sera justement question la situation au Sénégal dans la page entretien avec notre invité Lamine Diouf, journaliste au quotidien Enquête à Dakar. Ce sera en fin d'édition.
Omega Sport.
Ils sont 5 Burkinabés à évoluer dans les 5 meilleurs championnats d'Europe. Issa Kabore de l'Olympique de Marseille, Cyril Bayala d'Ajaccio, tous les deux en Ligue 1 française, Dango Ouattara de Bournemouth et Bertrand Traoré d'Aston Villa portent les couleurs du club de première ligue anglaise. Le dernier, Edmond Tapsoba, évolue au Bayer Leverkusen. En Bundesliga allemande, la saison ayant refermé ses portes, dressons le bilan de ces étalons des 5 meilleurs championnats d'Europe. Qui a joué le plus de matchs? Qui a été le plus décisif? Des réponses avec Bernabé Cabri.
Edmond Tapsoba est le seul joueur à avoir franchi la barre des 40 buts, toutes compétitions confondues cette saison, parmi les Burkinabés évoluant dans les 5 meilleurs championnats européens. Le défenseur du Bayer Leverkusen a disputé 33 matchs en championnat, 1 match en Coupe d'Allemagne, 5 en Ligue des Champions, 8 en Europa League, soit un total de 47 matchs pour un but marqué en Bundesliga. Il est également le seul à avoir joué le plus grand nombre de compétitions en club, championnat d'Allemagne, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions et Ligue Europa. 6e de Bundesliga, Leverkusen jouera la Ligue Europa la saison prochaine, peut-être sans Edmond Tapsoba, annoncé sur le départ. Transféré de Lorient à Bournemouth lors du mercato hivernal, Dango Ouattara a réalisé une saison bien remplie. L'attaquant a joué en tout 37 matchs cette saison, 18 avec Lorient et 19 avec Bournemouth. Dango termine la saison avec un bilan de 7 buts et 8 passes décisives pour les deux clubs. 6 buts et 3 passes pour Lorient, 1 but et 5 passes décisives avec Bournemouth. Il est l'étalon le plus décisif cette saison dans le top 5 européen. Mission accomplie pour Bournemouth qui a obtenu le maintien en terminant 15e du championnat anglais. Issa Kabore, qui a rejoint Marseille cette saison en provenance de Troyes, a joué 29 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique de l'unique club français, détenteur de la Ligue des Champions. Il s'agit de 22 matchs en championnat, 3 en Coupe de France et 4 en Ligue des Champions. C'est moins que la saison écoulée avec Troyes. Issa Kabore avait joué 32 matchs, mais en termes de qualité, le défenseur burkinabé a acquis beaucoup plus d'expérience, surtout avec la Ligue des Champions qu'il a disputée cette saison. Il a d'ailleurs marqué un but en championnat. 3e du championnat de France, l'Olympique de Marseille, va jouer les barrages de la Ligue des Champions la saison à venir. Reste à savoir si ce sera avec Issa Kabore, qui appartient au club anglais de Manchester City. De retour d'un prêt à Başakşehir, Bertrand Traoré a joué 8 matchs avec Aston Villa pour 2 buts marqués lors de la deuxième partie de saison. 2 buts qui ont fait du bien à Aston Villa. Le premier marqué le 4 avril contre Leicester a permis aux Villans de gagner 2-1 à domicile. Bonus, c'est le plus beau but de la saison d'Aston Villa à l'issue d'un vote effectué par les supporters. Le deuxième but inscrit le week-end qui a suivi face à Nottingham Forest de Keylor Navas a mis en confiance Aston Villa qui était dominé dans le jeu par son adversaire. Les Villans se sont imposés ce jour-là 2-0. Mais bien avant de quitter le club de Başakşehir, le capitaine des étalons avait pris part à 12 matchs en championnat, marquant 2 buts et délivrant une passe décisive. À cela s'ajoute 6 matchs, 1 but et une passe décisive en Ligue Europa Conference. Bertrand Traoré présente donc un bilan de 26 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts et 2 passes décisives. 7e du championnat anglais, Aston Villa disputera la saison prochaine la Ligue Europa Conference. Cyril Bayala a connu une saison très difficile avec Ajaccio. Le club a été relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison. Le milieu de terrain burkinabé a connu une saison à l'image de son équipe. Il a joué en tout 33 matchs de championnat et 2 en Coupe de France. Il a terminé la saison avec un but inscrit en championnat.
La revue de presse. La revue de presse de ce jour est présentée par Asmao Dao.
Le confrère Le Quotidien s'est intéressé au fonds de soutien patriotique, selon lui, un exemple concret de mobilisation endogène de ressources. Pour ce pays en transition, suite à 2 coups d'État successifs en 2022, le Burkina Faso n'est pas dans les bonnes grâces de plusieurs pays et autres partenaires techniques et financiers, fait remarquer le confrère qui poursuit. Dans un tel contexte où les PTF ne se bousculent plus, la seule alternative pour le Burkina Faso est de compter sur lui-même. Le journal apprécie l'augmentation des contributions financières, environ 210%. La contribution est passée de 7 à 20 milliards de francs CFA en 3 mois. C'est à ce prix, note-t-il, que le Burkina Faso pourra enfin se passer des aides, prêts et autres dons qui ressemblent le plus souvent à des cadeaux empoisonnés. Tout autre chose avec l'Express du Faso qui s'insurge contre un manque de personnalité de certains entraîneurs sportifs. Pour ce confrère Bobolet, un bon entraîneur doit avoir la personnalité et assumer ses choix. Si ça marche, tant mieux. Si ça rate, il doit accepter la sentence qui est le remerciement. Cependant, il dit apprendre que dans sa localité Bobo Dioulasso, que c'est le président qui impose des joueurs et la façon de diriger l'équipe à l'entraîneur. Un président qui parle même de crédit de séance que l'entraîneur doit. Dans cette situation, se demande le confrère, est-ce qu'on peut dire que l'entraîneur est seul comptable des résultats? Lorsque les résultats ne sont pas bons, c'est l'entraîneur qui est visé. Donc, cette façon de faire doit changer, estime le journal. Il faut que les entraîneurs puissent prendre leurs responsabilités et assumer comme il le faut. Il y va de leur crédibilité et du reste de leur travail. À l'international, le Sénégal en mode paix fourrée titre le confrère aujourd'hui au Faso, ajoutant que la présence de gros bras au siège de l'APR Yakar interroge et inquiète. Il conclut que nécessité faisant loi, Ousmane Sonko et le F-24 pourrait y venir, et Macky Sall aussi, pour laver ce linge sale en famille. Cela suppose que chacun fasse des concessions. Le Sénégal vaut bien de laisser tomber certaines ambitions et certains égos. Et du Sénégal, direction le Nigeria pour parler de levée de subventions de carburant avec le confrère Le Pays. Va-t-on vers des émeutes du carburant, s'interroge-t-il. Un vent de panique consécutif à l'annonce par le nouveau président élu Bola Tinubu de supprimer prochainement les subventions sur le carburant. Une décision qui passe mal au sein des citoyens puisque le prix du litre d'essence a quasiment triplé. En tout cas, des organisations de consommateurs donnent jusqu'à ce jour, 7 juin 2023, aux nouvelles autorités pour revenir sur leurs décisions, faute de quoi elles iront en grève. La vie risque d'être encore plus dure pour le consommateur nigérien, pense le journal des 1200 logements.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Lamine Diouf, journaliste et analyste politique au quotidien Enquête à Dakar, est notre invité. Avec lui, on parle de la situation au Sénégal, même s'il reconnaît qu'il y a une accalmie après les violences de jeudi dernier suite à la condamnation d'Ousmane Sonko. Il faut craindre que le pays ne s'enflamme encore si l'opposant venait à être arrêté. Lamine Diouf a été joint au téléphone depuis la capitale sénégalaise.
Lamine Diouf, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
16 morts, au moins 350 blessés, 500 arrestations au Sénégal depuis jeudi suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Même si on peut l'imaginer, vous en tant que citoyen sénégalais et africain, quel est votre sentiment à chaud par rapport à ces derniers événements dans votre pays?
Un sentiment de tristesse, de désolation, d'inquiétude, tous ces sentiments que l'on ressent aujourd'hui lorsqu'on se réveille à Dakar. Beaucoup de personnes avaient jugé nécessaire d'alerter sur la direction à la fois politique et sociale que prenait le Sénégal. Toutes les alertes qui ont été faites n'ont pas été écoutées du point de vue du pouvoir, soit du point de vue de l'opposition sénégalaise. Et aujourd'hui, voilà, il y a eu ce procès. Rien que le verdict nous a mené à ce bilan que vous venez de présenter.
Pour un pays qui fait office d'exemple de démocratie en Afrique, est-ce que le silence radio du président Macky Sall, non seulement sur sa candidature et sur la situation du pays, est de bon ton? En d'autres termes, n'aurait-il pas été judicieux qu'il fasse une allocution à la nation?
Pour l'instant, tout le monde dans les médias sénégalais, tout le monde est dans la société civile, tout le monde attend une intervention du président de la République. On se rappelle qu'en 2021, lorsque les émeutes avaient éclaté, ce n'est qu'au bout de 6 jours qu'il a fait une intervention à la télévision nationale pour dire aux jeunes qu'il les avait compris. Maintenant, 2 ans après, bon, il avait dit aussi par la suite que ce qui s'était passé en 2021 n'allait pas se reproduire, mais force est de constater que la situation actuelle est même pire que par rapport à mars 2021. Il y a eu 10 morts, il y a eu 10 cas. On voit qu'il y a des scènes de pillage et même des enseignes. Il n'y a plus de discernement entre les lieux qui sont attaqués, des banques ont été attaquées, des mairies, des maisons, des responsables politiques. Voilà, des agressions comme ça. On parle même de viol dans certains cas. Donc la situation est beaucoup plus dangereuse maintenant. Le président va-t-il prendre la parole? Ne va-t-il pas le faire? Pour l'instant, les membres de son gouvernement disent que ce n'est pas encore le moment pour que le président parle à ses concitoyens. Maintenant, est-ce que si le président se prononce, est-ce que ça va atténuer les tensions? Bon, on en sait rien.
Avec la situation que vous venez de décrire, on a appris que lundi et mardi, la situation s'était plus ou moins stabilisée. Est-ce un calme réel ou apparent?
Pour l'instant, il y a une accalmie. Mais est-ce que ça va durer? Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Parce que jusqu'à présent, le leader de l'opposition est en résidence surveillée.
Justement, parlons du leader de l'opposition, Ousmane Sonko. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'opposant dont l'éligibilité est remise en cause avec sa condamnation pourrait être arrêté à n'importe quel moment. Ne craignez-vous pas que cette arrestation possible et ou probable remette le feu aux poudres?
C'est exactement ça qui fait peur à tout le monde. Donc, s'il est arrêté, bon, il y a de très, très grandes chances que la violence reprenne. Voilà. Le Sénégal retombe dans ces émeutes qui sont vraiment terribles pour la population et pour l'économie aussi.
Et certains observateurs pensent que le procès contre Sonko est politique et que ce n'est qu'une ruse du président Macky Sall pour écarter un concurrent sérieux. Êtes-vous de cet avis?
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas enlever la politique, la main politique de ce procès. Le procès a été fait et la partie accusatrice n'a pu établir aucune preuve de viol et de menace de mort. Sa condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, celui qui n'était même pas visé dans l'ordonnance de renvoi du procès. Donc c'est ça qui a fait le plus mal à ses partisans, c'est ça qui attise plus le sentiment d'injustice. Il y a aussi un rapport interne de la gendarmerie nationale qui a été fait, rendu par Ousmane Sonko. Mais le journaliste qui a aussi utilisé ce rapport, qui l'a exploité, a été arrêté pour la diffusion de fausses nouvelles. Donc il y a beaucoup d'éléments qui tendent vers cette thèse d'un complot politique. Tout comme on voit qu'avant Ousmane Sonko, il y a eu Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et Karim Ouad, le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad. Eux aussi ont été écartés de la présidentielle 2019, alors qu'ils ont été poursuivis en justice puis condamnés à des peines selon le code électoral sénégalais.
Lamine Diouf, si vous aviez une forte suggestion ou sollicitude à l'endroit de Sonko et Sall pour une sortie de crise, ce serait laquelle?
Moi, je pense que la seule issue qui peut nous amener vers une sortie de crise, c'est que le gouvernement desserre un peu le taux autour de Ousmane Sonko. Qu'on enlève ce blocus qu'il y a autour de sa maison, qu'on le laisse s'exprimer, qu'on enlève toutes ces restrictions à la liberté qui ont été faites. Donc ça, ce serait un signe de la part du gouvernement qu'il a réellement envie d'aller vers le désert. Maintenant, une fois que tout ça sera fait, on pense qu'Ousmane Sonko lui aussi pourrait sortir et dire à ses partisans d'arrêter la résistance comme il l'appelle. Donc, je pense que ça, ce sont deux solutions.
Lamine Diouf, merci.
Merci beaucoup.
Le journaliste et analyste politique au quotidien Enquête à Dakar. C'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté à la retransmission Facebook Ibrahim Niaouné. Merci de votre aimable attention et très bon après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.